Chut, on écoute la télé ? Avec votre espace culturel Leclerc de Saint-Magne de Castillon, votre spécialiste culturel. Produits techniques, téléphonie et multimédia sur 1000 mètres carrés aux portes de Saint-Émilion.
Chut, on écoute la télé. Avec DSM Fabricant, votre spécialiste du revêtement sol et mur sans raccord sur diffusionsolmur.fr. C'est l'heure de Chut, on écoute la télé. Votre talk show radio avec Alain Jeanne.
Bonsoir à tous, comme chaque lundi désormais à 19h, ravi de vous retrouver pour votre émission Chut, on écoute la télé sur Mélodie FM.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Alors au sommaire de cette nouvelle édition de Chut, on écoute la télé. Dans un tout petit instant, nous allons consacrer une page spéciale à 2h de Paris, un très beau film de Virginie Verrier qui sort justement en SVOD sur toutes les plateformes de vidéo à la demande. Ça va être l'occasion pour vous de pouvoir voir ce film qui est sorti au cinéma le 27 juin dernier. À cette occasion, on recevra donc Virginie et Fred Testo, ainsi que Charlie Bousquet, et nous aurons Mathilda Marty, donc toute l'équipe du film sera avec nous d'ici quelques toutes petites minutes. Nous terminerons l'émission tout à l'heure avec Verino, l'humoriste qui n'en finit pas de remplir les salles. On l'adore, il sera de passage bientôt dans notre région pour évidemment nous faire rire encore. Et puis, nos coups de cœur télé de cette semaine, nous aurons le plaisir de recevoir Xavier Deluc pour le retour de Section de Recherche. On recevra également Sophia Issaidi pour Kepler qui débarque ce soir sur France 2. Coup de cœur ciné aussi avec Youssef Haïchdi pour Damien veut changer le monde, ça sort également cette semaine cinéma. Et puis enfin, je sais que vous les adorez, le clan Bédiard dont Demain nous appartient sera avec nous. Kenza Saïb Couton, Saël de Figueredo et Liam Batty seront nos invités exceptionnels. Alors on va tout de suite faire un détour avec les audiences de la semaine dernière pour commencer. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Alors en bref, lundi dernier, c'est un carton pour Camping Paradis avec 4 878 000 téléspectateurs et 22,6% de part de marché. Marie au premier regard s'en sort bien avec 2 421 000 et par contre toujours aussi compliqué pour la fin de saison de Zone Blanche avec seulement 1 442 000 téléspectateurs et 9% de part de marché. Et puis il y avait La Stagiaire sur France 3 mardi, très beau score, 4 197 000. Par contre M6, dégringole avec Le Sens de l'Effort. 1 722 000 téléspectateurs seulement. Mercredi, disparition inquiétante sur France 2 cartonne. 4 754 000 téléspectateurs et Broitou sur son passage. Même Top Chef est légèrement en baisse avec 2 634 000. Et un petit score pour la carte au trésor, 2 179 000. Allez, tout de suite, on démarre nos invités et notre spécial SVOD cette semaine. C'est à 2h de Paris dans Chut, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler du film à 2h de Paris qui sort en SVOD justement et on a toute l'équipe qui va se succéder avec nous pour notre spécial dans Chut, on écoute la télé. Je suis très fier de recevoir Virginie Verrier qui est la réalisatrice, productrice, distributrice. C'est un peu le couteau suisse du film. Bonjour Virginie.
Bonjour, et scénariste aussi. Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous, avec Fred Testo qui est avec nous aussi. Bonjour Fred.
Oui, moi je suis fumiste.
Donc dans le film.
Exactement.
Qui joue le rôle de Bruno Petit dans ce film. Alors on va voir Charlie Bousquet et Mathilda qui vont nous rejoindre d'ici quelques instants également pour parler de cette très belle histoire. L'histoire d'une femme libre, est-ce qu'on pourrait un peu situer cette histoire comme ça, l'histoire de Erika Sainte, qui joue le rôle principal.
Oui, qui joue le rôle de synonyme. Bah effectivement, c'est la liberté caractérise le personnage. Effectivement, donc c'est ça qui est assez prégnant quand on regarde le film. Mais c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui retournent sur les terres d'enfance de l'héroïne pour essayer de retrouver le père de l'enfant.
Le père biologique, ben oui, parce qu'évidemment, maintenant, elle a 15 ans et elle va en savoir un peu plus sur son histoire. Et à cette époque-là, elle était un petit peu volage, ce qui fait qu'il peut y avoir plusieurs choix et elle va tenter, effectivement, de retrouver, le père de sa fille. Et parmi ses pères, évidemment, il peut-être y avoir Bruno Petit.
Exactement. Donc, je joue ce rôle, moi. Bruno, c'est quelqu'un qui, qui est resté, lui, dans le village natal, chez ses parents. Sur ses terres, quelqu'un qui ne parle pas trop, donc quand il voit débarquer un peu cet amour de jeunesse avec une fille de 15 ans, il se demande un peu ce qui se passe et au final, ce retour dans le passé, dans le présent, je crois va lui faire du bien à ce personnage. Et on suit comme ça les différents, parce que j'ai beaucoup de collègues qui travaillent avec moi, il y a différents rôles masculins, donc chacun ça leur fait un boom et en même temps c'est là qu'on découvre un peu leur histoire et qui ils sont vraiment.
On découvre le passé de Sidonie un petit peu justement au fur et à mesure hein, de ses histoires. Alors moi j'ai beaucoup ri évidemment quand j'ai vu tes parents Fred dans le film. Valérie Mérès est incroyable avec ce visage charmé quand on la connaît, elle est toujours souriante en plus.
Bah oui, et après c'est ça, il y a, c'est intéressant aussi le de confronter les différents parcours, l'expérience que Valérie Mérès, il y a Fanny Contenson aussi qui est admirable, enfin. Donc il y a des rôles pour tout le monde, de différentes générations et pas forcément justement dans le à contre-emploi, on va dire, pour parler vrai. Et c'était un plaisir de jouer ensemble et très intéressant de la voir comme mère, comme ça, complètement protectrice envers son fils, étant choquée du retour de cette Sidonie qui a fait tant de mal à l'époque à son fils. Donc voilà, comment ça va se passer, vous le saurez en voyant le film.
Alors le casting, très chouette, Bruno Slagmulder, on y retrouve Frédéric Pierrot aussi, Sophie Letellier, qui a une partition à jouer, qui est très drôle également. Comment vous les avez choisis tous, Virginie ?
Ah bah j'ai décroché mon téléphone, hein. C'est vrai que j'avais envie de joindre directement les acteurs, sans passer par les agents. J'ai monté mon film de façon indépendante aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un énorme budget. Donc déjà, j'allais pas convaincre les acteurs sur l'argent. Puis j'avais envie d'avoir un dialogue vrai avec les acteurs que j'avais imaginé. Et puis j'ai décroché mon téléphone et tout le monde a répondu positivement.
La petite histoire dit que les premiers que vous avez appelés, ils ont tout de suite dit oui, ils ont tout de suite adhéré justement à votre histoire, à votre projet.
Bah oui, Fred en tête de liste. Ouais, effectivement, j'ai pas eu de mal à convaincre ni Thierry Frémont, ni Fanny Cottençon, ni Valérie Mérès, voilà. Moi, ça m'intéressait d'avoir un casting comme ça un peu hétéroclite, comme disait Fred, avec des acteurs populaires qu'on a aimés, qu'on voit peut-être pas assez pour moi au cinéma, Fanny Cottençon, Thierry Frémont, Golden Globe, de Molière, un César. Enfin, c'est vraiment des acteurs extraordinaires. Et puis le contre-emploi, c'est ça qui me plaît aussi. Donc Fred l'est, même si Fred il a une palette très très large, il l'a déjà démontré qu'il pouvait aller dans différents registres. Mais voilà, j'ai tous voulu les emmener à des endroits où on les avait pas vus depuis longtemps. Et puis mélanger avec la jeune génération, avec Erika Sainte qui est une actrice belge qui est inconnue du public en France. Ah, faire monter une mayonnaise comme ça, moi c'est ce qui me plaît, découvrir des acteurs que j'ai aimés quand je regarde des films et me dire « Ah là là, les revoir à nouveau !» Parce qu'on voit un peu tout le temps les mêmes têtes, je trouve, au cinéma.
Vous avez été aidé dans le scénario à Virginie par Charlie Bousquet qui va nous rejoindre dans un instant, qu'évidemment les fans de Caméra Café adorent. Et Charlie, c'est aussi une vraie soupape dans le film pour le personnage de Sidonie.
Oui, bah elle aussi, elle a un rôle à contre-emploi. Elle a un rôle, voilà, tout en émotion, hyper touchant. Donc, je suis ravie qu'on lui ait écrit cette partition. C'est vrai qu'elle a un très joli rôle. Ouais.
Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Fred, à la première lecture du scénario? Quand vous avez lu la première fois, vous vous êtes dit quoi ?
Moi, ça m'a tout de suite plu. Déjà, l'originalité de l'histoire et le côté drôle et en même temps émouvant. Quoi. Moi, c'est ce qui me plaît le plus dans les films que je regarde. Donc, jouer dedans avec plaisir, au contraire.
Alors Virginie, juste avant d'accueillir Charlie et Mathilda, justement, voilà, c'est un parcours du combattant. On monte un film combien d'années pour arriver voilà, à tourner aujourd'hui, à le sortir au cinéma ?
8 ans, 9 ans, quoi. Voilà, mais c'est le sujet, c'est la caractérisation du personnage principal, sa liberté, qui a heurté, décontenancé les producteurs, qui étaient tous intéressés par l'histoire.
Il n'y a rien de choquant, hein. Moi je peux vous dire, je l'ai vu le film, il n'y a absolument rien de choquant.
C'est ce que je leur ai dit, non-stop. Mais une mère de famille ne peut pas être aussi libre, c'est une jeune femme, elle est célibataire, elle a eu sa fille tôt, voilà, elle aime la vie... Elle retrouve ses anciennes amours.
On va continuer à en parler dans un instant. On va écouter la bande-annonce tout de suite. Merci Fred Testo, Virginie Verrier. Et on va tout de suite écouter la bande-annonce à 2h de Paris. C'est maintenant. Écoutez.
Qu'est-ce qui t'amène dans le pays ?
Un petit séjour comme ça, pour le plaisir ?
Pour le plaisir ?
Je vais pas tergiverser. Je suis là parce que on recherche le père de Lolo.
Écoute bien, j'ai fait des calculs. Lolo est né le 5 août 1999.
Oui.
Il y a 5 clients potentiels dans ton affaire.
Tu me reconnais ?
Ah ouais.
C'est qui, chérie ?
Bon, alors, vous êtes sortis ensemble. T'es une petite amourette d'écolier, c'est ça ? Vous étiez que physique. C'est qui cette nourriture ?
Alors, chérie, présente-toi calmement.
Ok. En fait, il n'y en a pas un qui est normal, alors, dans la liste. Qu'est-ce que ça veut dire, normal ? Rien du tout. Je te le dis toujours.
Allez, on continue donc notre spécial à 2h de Paris avec Charlie Bousquet et Mathilde Amarty qui nous ont rejoints. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de te retrouver, Charlie. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vus, en plus.
On grandit ensemble.
Exactement. Alors ce film, tu l'as signé en tant que co-scénariste avec Virginie et Mathilda. Mais évidemment, c'est celle autour... Tout tourne finalement. C'est la star du film, Mathilda.
Un petit peu, oui.
C'est le vecteur.
Enfin, oui. Plutôt, ouais.
Le vecteur. On a planté un petit peu le décor avec Virginie et Fred à l'instant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de signer le co-scénario et d'aider Virginie dans cette aventure, Charlie ?
Eh bien, on était d'abord parti sur une idée de série. Virginie avait son personnage de Sidonie et elle m'avait confié le rôle. Et puis, au fil du temps, on s'est dit, mais ce personnage est assez riche pour en faire un long métrage. Et voilà, on a commencé à se dire, allez, on y va, on écrit. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, en fait. Petit à petit, voilà, c'est devenu un vrai film. Mais le film écrit, après, il a fallu le vendre. Et là, pour le coup, c'est encore une autre aventure. Ça a mis du temps et on est passé par la production participative. Mais elle vous en a parlé, je pense.
On a parlé effectivement de ce parcours du combattant qui est pour une jeune réalisatrice de réaliser son premier film. Et puis, bah, en même temps, voilà des barrières que l'on peut vivre dans ce métier aussi. Mathilda, comment t'as réagi quand t'as su que t'allais avoir ton premier grand rôle comme ça au cinéma?
Bah, moi, Virginie, je l'ai rencontrée dans un café, en fait, pour discuter du film. J'ai pas capté tout de suite sur le moment qu'en fait j'ai été prise directement parce que d'habitude j'ai l'habitude de passer des castings et tout. J'étais super heureuse, c'est sûr. En plus, quand j'ai vu le casting qu'il y avait, partir comme ça 2 mois avec une équipe et tout, c'était super quoi.
Papa potentiel en plus, Fred Testo, Frédéric Pirot, Bruno Sagmulders. Ça va, elle a été bien servie pour une première, Mathilda.
Ouais, non, ça c'est sûr, j'étais plus que contente, vraiment.
Quelle était la scène que tu redoutais le plus ou que tu avais peut-être un peu peur ou une scène drôle qui a mis du temps justement à se mettre en boîte parce que pour un fou rire ou quelque chose qui est arrivé, une anecdote?
Un fou rire, il y en a eu une, mais en plus il y avait vraiment pas de quoi rire parce que c'était pas drôle.
C'est souvent le cas.
C'était la scène avec Erika Sainte quand on arrive chez le médecin, on sort de la voiture et on cogne et j'arrêtais pas de rigoler et c'était même pas drôle, donc je sais pas, je pourrais pas expliquer pourquoi.
Les nerfs, je pense. Oui, voilà. La fatigue, les nerfs. C'est vrai qu'en plus on avait froid. C'était une période où il faisait froid.
Très froid et je savais qu'on allait terminer vers 6-7 heures du matin. On partait sur un tournage de nuit, nuit blanche. Hein. Et ouais, je pense que peut-être que j'étais un peu... Ouais, j'étais sur les nerfs peut-être, je ne sais pas.
Je sais pas, mais en tout cas Sophie Letellier sur cette scène était très en forme. Vous le verrez dans le film, très très en forme.
Elle est extraordinaire, moi c'est ma scène favorite. Ouais, extraordinaire.
Bon, on va pas spoiler évidemment tout le film, mais voilà, l'occasion de pouvoir justement le voir en SVOD. C'est souvent une deuxième vie pour les films. C'est ça qui est bien, parce que justement quand on n'est pas soutenu sur une sortie au cinéma, ça permet aussi voilà, de permettre au public de le voir de façon plus large.
Ah bah bien sûr, c'est enfin le plus grand nombre va pouvoir voir le film. Effectivement, on a eu une petite sortie et nous cette sortie DVD c'est voilà une seconde vie super importante, donc voilà, il faut pas qu'on la rate cette sortie.
Alors tu joues la meilleure amie hein, de Sidonie, tu as pas eu de ses nouvelles depuis une quinzaine d'années, elle revient comme ça d'un seul coup dans ta vie.
Elle me donne aucune nouvelle et elle débarque avec une fille de 15 ans. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Non voilà, elle est partie à Paris et moi je suis restée dans mon trou. J'ai continué ma vie sur place et je vais l'aider à...
Le rôle de relais un peu, pour retrouver tous ses compagnons potentiels d'enfance.
Je vais l'aider à cette quête du père. Comme je suis sur place, je connais encore tous ces hommes.
Quel souvenir de tournage justement dans les Hauts-de-France, tous les deux, à part le froid?
Justement, moi j'ai découvert une région, la baie de Somme, que j'ai trouvée magnifique. J'avoue, je connaissais pas. On a vu des couchers de soleil, des levées de soleil incroyables. Et je trouve que le film est un peu une ode à la baie de Somme, parce qu'il est vraiment valorisé et les images sont sublimes. Et voilà.
C'est titre un peu à 2 heures de Paris, pour le coup.
Et oui, la réalisatrice est de là-bas. Donc, et on sent qu'elle aime sa région, hein, elle la valorise.
Premier jour de tournage pour toi Mathilda, est-ce que tu te souviens? Qu'est-ce que tu t'es dit le matin en arrivant sur le plateau, ta première scène?
Oui, je me souviens, c'était tournage de nuit, c'était à Paris, ça se passait en appartement, c'était avec Thierry Frémont et Erika Sainte, et voilà, on a tourné la première semaine à Paris, et ensuite on est parti en baie de Somme.
Et t'as rencontré avec Erika, qui joue ta maman du coup?
Ça s'est fait dans un café, pareil, avec Virginie.
Et
café là-bas. Hein.
Non, c'est Virginie qui fonctionnerait comme ça. Elle a pris un café avec chaque comédien du film avant. Mais Avec Erika, ça s'est tout de suite hyper bien passé. On a une super belle complicité dans la vraie vie et je pense que ça peut se ressentir aussi dans le film. Et non, avec Erika, ça s'est très 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 bien passé tout de suite.
T'as des projets pour la télé ou pas? Est-ce qu'on va te voir peut-être bientôt à la télé?
À la télé dans une série qui s'appelle Irresponsable, et sinon ce sera au cinéma dans un film qui s'appelle Versus en avril.
Voilà, et elle bosse la petite. Hein,
attention hein.
Et pour toi Charlie?
Et bien pour moi, j'attaque l'écriture de mon deuxième film. Voilà, qui avance bien avec la réalisatrice de Plan de Table, Christelle Reynal, et Pascal Serriès qui travaille avec Florence Foresti, qui était notre metteur en scène sur 20 heures dispétantes.
Et bien voilà, le rendez-vous est pris. Merci en tout cas à toutes les deux d'être passées nous voir à 2h de Paris. On rappelle, ça sort en SVOD. N'hésitez pas à aller vous le procurer, aller voir ce très beau film en tout cas de Virginie Verrier. Et je vous dis à très très vite. On va se requitter avec un petit extrait.
Merci.
Merci.
Si tu viens comme j'étais amoureuse de toi à l'époque, je te trouve un petit peu dur avec elle. Ça fait 15 ans. Mais elle a pas changé, ça se voit tout de suite.
Tu t'habites toujours chez tes parents, ça m'étonne pas non plus.
Est-ce que ça peut te foutre?
C'est dommage que tu finisses vieux garçon comme ça.
Tu vas enfin connaître le père de ta fille.
C'est comme si j'attendais le résultat du loto et qu'en même temps le gros lot, c'était un paquet d'emmerdes.
Le bonheur de ta fille, quand même.
Allez, on va faire tout de suite une petite pause. Dans un instant, Verino, l'équipe de Demain nous appartient. Ebi du beau monde, Xavier Deluc pour Section de Recherche. Tout ça, c'est dans 3 minutes. Alors ne bougez pas, on revient tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, Damien veut changer le monde, hein. C'est le film à ne pas rater au cinéma cette semaine avec Youssef Hajdi qui est avec nous et qui joue le rôle de Marco. Bonjour Youssef.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors un film magnifique, moi j'ai eu vraiment la chance de le voir en avant-première. Comment on pourrait planter un petit peu le décor du film déjà?
C'est une comédie d'engagement avec le personnage principal joué par Franck Gastambide, Damien. En lui va rejaillir la force de l'engagement que portaient ses parents. C'est comme si c'est quelque chose qu'il portait dans son sang, qui va rejaillir 30 ans plus tard. Et voilà, il va s'engager auprès de son papier. Donc d'abord, il va commencer tout seul. Et ensuite, la vague est tellement forte et tellement puissante d'humanité que du coup, il va amener ses amis avec lui, dont Marco, Gringe, Guillaume, Camille, sa sœur et d'autres. Et voilà, donc c'est une comédie d'engagement, quoi.
Est-ce que c'est une volonté aussi peut-être de faire bouger un peu les choses, parce que quand on voit le film, c'est tellement gros, quand on voit ses enfants, justement, parce que c'est avant tout, c'est de ce petit qu'il tombe sous le charme, hein, le personnage de Franck, de Damien, finalement.
Oui, en fait, c'est un film qui dit aujourd'hui, voilà, quand les choses sont loin de nous, on s'en protège facilement, mais quand on est devant le fait accompli, c'est comment on agit, en fait. C'est ça que la comédie raconte. Au-delà de défendre des sans-papiers, elle dit aujourd'hui, voilà, dans une société où on s'individualise de plus en plus, comment on peut aider son prochain d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par un sourire, ça peut être par un engagement dans une association humanitaire, ça peut être dans plein de choses. Et là, avec Damien, ce qui se passe, c'est qu'il va tenter de protéger et de permettre à cet enfant de rester en France, en fait. Et voilà.
Reconnaissant.
Oui, en le reconnaissant et comme les autres parents vont le faire par la suite, en fait. En fait, ce que raconte le film aussi par le personnage de Marco, de Gringe et d'autres, c'est qu'on est chacun dans notre petite vie confortable, en fait. Voilà, moi je suis là, je cire mes chaussures, je lisse ma voiture, je fais de façon à ce que ce soit nickel, donc je protège mon petit confort quotidien. Et Damien va venir casser les murs, en fait, là-dedans, et nous on va escalader les murs aussi avec lui pour pouvoir aller défendre aussi une cause.
Comment tu définirais Marco par rapport à tous ces papas potentiels?
Marco, c'est ça, en fait. C'est ce que je disais précédemment. C'est celui qui, voilà, qui cire ses chaussures, qui est toujours dans son petit confort.
Ouais, bien propre sur lui, finalement.
Rien ne dépasse. Tout est clean dans sa vie. Il a toujours géré sa vie jusque-là. Et en fait, il va se laisser dépasser volontairement par cette vie qu'il a toujours tenté de gérer d'une manière ou d'une autre. Par quelque chose d'humanitaire, en fait, et de fraternité, de lien, et d'envie de voilà, c'est même pas l'idée d'être un héros, c'est juste de se dire, en tant que citoyen, en tant qu'être humain, je me dois à un moment donné de tendre la main à l'autre, en fait.
La rencontre avec Franck sur le tournage, comment ça s'est passé?
Extraordinaire, hein. C'est moi, en fait, personne se connaissait sur le film avant, donc on s'est rencontrés 24 heures après, on était les meilleurs amis du monde. avec Camille, avec Guillaume, avec Franck, avec Xavier. C'était vraiment une rencontre formidable, quoi, vraiment. Mais en fait, c'est le sujet aussi. C'est on a tellement mis de cœur à vouloir raconter cette histoire. On a tellement voulu que cette histoire puisse à un moment donné faire écho au maximum de gens qui pourront voir ce film, que du coup ça a créé un lien très fort entre nous, quoi. C'est ensemble, venez, on essaie de défendre une cause, quoi. Et voilà, et ça a créé un lien fort, quoi.
La scène la plus forte, la plus drôle, la plus émouvante peut-être que tu aies eu à jouer?
La scène la plus forte que j'ai eu à jouer, je crois que c'est celle où je dois présenter ma femme au petit que
tu as reconnu.
Que j'ai reconnu. Ça a été une scène très forte dans le film parce que c'était un moment où, voilà, on sait au début du film que Marco a du mal à avoir un enfant avec sa femme. Donc, derrière son dos, il va tenter de reconnaître cet enfant. C'est toute cette dualité et la beauté qui se passe dans ce silence et cette rencontre.
Assez loin avec justement ce silence. Ouais, j'ai trouvé très bien filmé par Xavier là-dessus.
Voilà, il y a ça. Et puis ensuite, il y a le, ouais, en rire, en comédie pure. Il y a peut-être cette scène sur le balcon où je tente de convaincre Franck d'une manière ou d'une autre qu'il aurait fallu qu'il fasse une étude de marché. Bon, voilà, je vais pas spoiler le film, mais voilà. C'était une des scènes où on s'est bien marré, ouais.
Bon, en tout cas, on sent que voilà, vous vous êtes bien amusé sur ce film. C'est vraiment une comédie sociétale engagée que vous allez voir. Vous aurez peut-être des idées justement un petit peu différentes quand vous ressortirez du film. Pour ça, je vous encourage vraiment à aller le voir et peut-être que ça vous donnera des envies d'aider d'une façon ou d'une autre des gens.
Ouais, tout à fait. C'est très bien dit. Je peux rien rajouter à ça. C'est tellement juste. Donc, merci d'en avoir tenu les arguments aussi justes.
Tes projets pour 2019? Alors on va parler de Pupille, hein, parce que ça va sortir en DVD, ça, d'ici quelques jours, où tu étais à l'affiche aussi en décembre dernier.
Oui, voilà, très heureux d'avoir participé à ce film qui est formidable aussi sur l'adoption. Donc on est très heureux de ça, qui sort très bientôt en DVD. Et puis voilà, après j'ai d'autres projets qui sortent. Bête blonde, un film d'auteur qui sort aussi le 6 mars. C'est la vie de Julien Rambaldi, Divorce Club de Michael Youn. Voilà, et puis la nouvelle série que réalise Jeanne Herry, qui s'appelle Fleabag avec Camille Cotin pour Canal.
La réalisatrice de Pupille.
Exactement.
Merci Youssef Hajli d'avoir été avec nous. Damien veut changer le monde. C'est mercredi au cinéma et on va écouter évidemment la bande-annonce. Merci à toi.
Merci. Merci à vous. À bientôt.
Bonjour.
Allô, comment est-ce que tu as fait? Il faut que tu nous aides.
On veut la même chose que Bazad et sa maman, monsieur.
On va trouver une solution.
Attends, comment ça on va trouver une solution?
Il faut juste qu'on se bouge le cul et qu'on trouve notre père.
C'est tout ce que vous avez trouvé pour vous taper des meufs?
Non.
Ce qu'on s'apprête à faire, là, ensemble, c'est enfreindre la loi.
C'est de la fraude en mode organisé, t'en prends pour 10 ans et 750 000 euros.
On n'a pas assez de père. Il va falloir que tu t'y colles.
On s'en souviendra de ce jour-là, hein.
Si.
Ça va, ma chérie?
Appelez papa.
Je viens reconnaître ma fille. Elle est Aljanik.
Il y a Aljanik.
Aljanik.
On s'est un peu fait dépasser.
Tu t'es fait dépasser par les jets de Brest de Selma.
Ton seul délit, c'est celui de la solidarité.
J'aurais aimé juste une fois réussir à faire un truc bien. Jusqu'au bout, quoi.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va démarrer notre spécial Kepler qui débarque cette semaine sur France 2. Et on a Jean-Yves Arnaud et Johan Le Gaffe qui sont avec nous, qui sont les deux créateurs et scénaristes de la série. Alors, on a Sophia Issaïdi qui va nous rejoindre aussi dans un tout petit instant, dans quelques petites minutes. Bonjour déjà tous les deux.
Bonjour. Salut.
Merci d'être là. Alors moi j'ai déjà envie de vous poser la première question. Qui a eu l'idée de ce personnage de Kepler? Johan, Jean-Yves, qui c'est qui commence, qui se lance? Jean-Yves.
Alors, au départ c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai lu un livre sur Billy Meehan qui est le premier cas de multipersonnalité, qui est un Américain dans les années 70 qui a été diagnostiqué avec 24 personnalités différentes. Et j'avais envie de travailler autour de ce personnage depuis longtemps. Et puis quand j'ai rencontré Johan, on s'est dit que c'était le moment de faire ça.
Et on applaudit Sophia Issaïdi qui nous rejoint. Voilà, on applaudit. Bonjour Sophia.
Salut.
Merci d'être avec nous également. Alors, on était en train de planter un petit peu le décor. Qui avait eu l'idée du personnage de Kepler, évidemment? On en avait parlé un peu avec Marc Lavoine il y a quelques mois déjà. Sophia, donc toi tu incarnes le rôle d'Alice, policière. Alors, on n'a pas l'habitude de te voir dans un rôle assez dur. Donc, c'est un vrai bonheur de te voir dans un registre différent aussi.
C'est gentil, mais c'est un bonheur qui est partagé parce que je l'ai ressenti aussi. C'est ce qui m'a plu aussi dans ce personnage, c'est d'aller chercher autre chose. C'est ce que j'ai aimé aussi chez Frédéric Schoenderfer, c'est sa curiosité de se dire j'aimerais bien la voir autrement, j'aimerais bien la voir dans ce rôle-là. Ça a été jouissif à travailler. J'ai bossé ça avec mon coach et ça a été jouissif vraiment de travailler sur la violence, sur un côté dur qu'on peut imaginer au départ, mais au final qui cache une extrême sensibilité, une sensibilité que Calice pense qu'elle n'a pas le droit de montrer dans le monde dans lequel elle vit, un monde d'hommes. Voilà, toute cette complexité m'a vraiment donné envie de me dépasser, d'aller chercher vraiment des émotions nouvelles que je ne connaissais pas. Et c'est toujours très excitant d'aller découvrir de nouvelles choses.
Exactement. Johan, quand vous avez écrit tous les deux la série, est-ce que vous pensiez à des gens particuliers? Est-ce que Sophia et Marc ont été à la hauteur de vos espérances quand vous avez vu le résultat?
Bah tout à fait. Ouais, on est ravis du résultat. Et puis c'est vrai qu'on les a rencontrés. On les a rencontrés avant. On a eu la chance d'être très investis dans le projet, de rencontrer Frédéric Schoenderfer, le réalisateur. Et qui nous a aussi laissé beaucoup de place et qui nous a laissé assister à beaucoup de choses, laissé accompagner notre texte. Donc ça, on a eu énormément de chance d'être une équipe comme ça qui fonctionnait bien. Et donc ouais, on est ravis d'avoir ces deux acteurs qui apportent énormément de sensibilité à des rôles qui sont compliqués, qui sont différents de ce qu'on voit traditionnellement à la télévision. Et c'est que du bonheur.
En fait, on peut pas imaginer Kepler ou Alice différemment, c'est-à-dire qu'ils s'en sont tellement emparés. Quand on écrit, on est dans son coin, on est des petits Shakespeare enfermés dans son bureau, et puis on se confronte au réel. Et quand le réel sont des comédiens comme ça, on est plus que ravi. À chaque fois, on a pu voir les rushs au fur et à mesure du tournage. Et c'était que du bonheur, quoi. Vraiment.
Combien de temps vous avez travaillé dessus, tous les deux, pour écrire ces 6 fois 52 minutes qu'on va voir?
Alors, on a commencé...
Ça a l'air d'avoir été long.
Oui, ça a été assez long. En fait, on l'a développé au CEA, le Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle, en deuxième année, donc pendant 6 mois. Et ensuite, en tout, 2 années. 2 années d'écriture à 4 mains. Donc assez rapide pour une série française. Ouais.
On va planter un petit peu le décor de départ, le pitch de base. Alors c'est même plus un dédoublement de la personnalité dont souffre Kepler, mais il en a combien dans sa tête?
Il a trois passagers dans sa tête, donc 4 personnalités en tout. C'est un flic malade, donc il souffre de dissociation de la personnalité, qui a un peu dérapé pendant une opération à Paris, qui s'est mis au vert dans un petit commissariat de Calais, qui s'est juré de plus retourner sur le terrain.
On l'envoie dans le Nord, logique.
Oui, tant qu'à faire. Mais il fait du travail de bureau et il essaie de se soigner, de reconstruire sa famille. Sauf qu'à un moment donné, un crime est commis, un corps est retrouvé et il va se mettre à enquêter avec l'aide d'une flic du coin, Alice. Et il va devoir retourner sur le terrain et puis il va glisser peu à peu vers ses anciens démons.
Quelle a été pour toi la scène la plus difficile peut-être que tu aies eu à tourner? Parce que on va devoir beaucoup courir hein, quand même, il y a des courses poursuites et en courant, pas en voiture, donc tu as donné beaucoup Sophia.
Alors c'est très dur de trouver une scène parce qu'on a quand même tourné 3 mois, donc c'est beaucoup. Mais je dirais que c'est le côté, moi ce qui était très nouveau pour moi c'était le côté physique. J'avais jamais travaillé ça, j'avais jamais appréhendé un rôle de cette manière-là. Et du coup, j'ai découvert que je n'étais pas cascadeuse, en fait. C'est un vrai métier et moi, c'est vrai que j'aime bien me lancer des défis, j'aime bien faire les choses par moi-même. Frédéric aime bien ça aussi, donc du coup, j'y suis allée à fond, j'ai fait toutes les cascades, j'ai tout fait. Et c'est vrai que ça a été terriblement jouissif, parce que j'avais des fois l'impression d'avoir 14 ans, même 8 ans de temps en temps, parce qu'une scène, par exemple, on met des coups de poing, des coups de boule, mais j'avais vraiment 12 ans. Tout le monde s'est foutu de ma gueule sur le tournage, en me disant, mais c'est pas possible, mais quand même. Et je sautais dans tous les sens, parce que c'était vraiment jouissif à faire. C'est assez bizarre à expliquer. Mais c'est vrai que sur les 3 mois, je me suis pas mal blessée. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été un petit peu compliqué à gérer, mais la magie de ce tournage a fait que tout était toujours bien. Le jour où je me suis foulé la cheville, pendant 10 jours, comme par hasard, je ne courais pas dans le tournage. Donc on a réussi quand même, malgré les petites difficultés, on a réussi toujours à se rattraper. Et heureusement que j'avais fait une préparation physique avant, parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué.
Le résultat, en tout cas, cette semaine sur France 2, c'est le lancement donc de Kepler. Votre nouvelle série à ne pas manquer, évidemment. Et c'est parti pour 3 semaines. Marc Lavoine, Sophia Issaidi, Serge Rabiokin et plein d'autres qui seront au casting. Merci à tous les 3 d'être passés nous voir. À très vite.
Merci.
À très vite, merci.
À très vite.
Putain de migrants. C'est une déclaration de guerre.
Quelqu'un cherche à les faire accuser, ça vous est pas venu à l'esprit?
C'est qui ce connard?
Un nouveau. Il s'est fait muter de la PJ de Paris. Il a merdé pendant une descente. Il y a des types de chez nous qui sont morts.
On avait un accord, toi et moi. Plus de terrain. Un autre choc émotionnel était passager pour y ressurgir.
Je veux pas que tu continues tout seul.
Je prends mon traitement. Je vais bien.
Et tu veux risquer de tout foutre en l'air?
Ce métier, c'est ma vie. Je veux retrouver l'assassin de cette fille.
Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu nies notre existence.
T'es qui?
Laisse-moi entrer.
Ça va?
Ouais, ça va, juste un petit peu de fatigue.
Parce que chez les Martel, vous aviez pas l'air bien.
Où sont les médicaments?
Les passagers vont me détruire.
Tu crois?
Je vous écoute me dire ce que vous avez fait cette nuit et pourquoi vous m'en fumez depuis 24 heures.
C'est pas moi.
Allez, coup de cœur télé, évidemment, cette semaine consacrée à Section de Recherche, comme tous les ans. Vous savez que c'est une série qu'on aime et qu'on suit depuis maintenant des années. Et on a la chance d'avoir, encore une fois de plus, eh bien, celui qui joue le rôle de Martin Vernier. Il est avec nous, Xavier Deluc, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est le grand retour de Section de Recherche jeudi, en grande pompe, puisque en plus, eh bien, pour une fois, ça se délocalise loin, très loin.
Oui, on va carrément en Nouvelle-Calédonie pour les deux premiers épisodes. Et c'est vrai que c'est des paysans et voilà, c'est une sacrée aventure.
Alors ces deux épisodes vont en plus, pour les fans de la série, vont être ravis puisque ils vont voir le retour de Manon Azem, Sarah Casanova, ouais, ouais, qui va être emmenée dans une enquête, hein, une double enquête puisque c'est un double épisode.
C'est ça. Ça fait suite à la fin de la saison dernière où on voyait Manon Azem, enfin le personnage de Sarah dans une vidéo dans un téléphone portable. On sortait ça d'un conteneur, d'une voiture qui était dans un conteneur et on s'inquiétait. Et là, on va la rechercher, voir est-ce qu'elle est toujours vivante. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on va en découvrir des belles.
Xavier, tu te poses des questions à chaque fin de saison. Tu te dis, voilà, est-ce qu'on va y retourner? Est-ce que, quand tu vois les audiences à chaque fois, c'est hyper rassurant de voir la fidélité du public quand même.
Bah, c'est pour le public qu'on joue et pour les spectatrices, les spectateurs, on est vraiment très heureux que ça leur plaise. Et puis après, c'est toujours remis en question chaque année, c'est normal. Et puis voilà. Mais pour l'instant, la série vit son chemin et c'est très agréable.
Alors c'est parti pour 9 soirées, hein. Vous allez avoir 14 épisodes inédits, ça te prend quasiment 8 mois sur 12. Hein.
Oui, ça prend vraiment du temps, c'est une belle passion, une belle aventure d'équipe, voilà, peut-être que l'année prochaine on en allégera un peu, mais en tout cas, oui, pour l'instant c'est vraiment un rythme effréné.
Alors, ces deux premiers épisodes, on le disait, en Nouvelle-Calédonie, on va les découvrir jeudi sur TF1, quel souvenir tu gardes de ton tournage là-bas?
Un exotisme assez fort, bien sûr, mais avant tout, ce que j'en retiens, c'est quand on était dans le nord de l'île, on était accueillis par une communauté kanak qui nous a autorisé à tourner chez elle. Donc il y a tout un rituel pour accueillir les gens dans leur tribu, dans leur terre, dans la vallée. Et on a vécu un partage d'équipes techniques, aussi bien les personnes, les techniciens de Nouméa que les techniciens parisiens qui sont venus ou français. Je pense qu'on a tous versé des larmes quant à cet échange qu'il y a eu avec cette tribu. Et ça vous change un homme.
Ça donne des envies pour la future saison, peut-être, de faire d'autres épisodes ailleurs?
Oui, ça faut demander au producteur. Je sais, oui, c'est possible, mais d'abord, c'est un endroit qui est cher pour la productrice artistique Élise Castel, puisqu'elle est de là-bas. Donc, ça lui tenait à cœur. Et puis non, c'est surtout que ça vous change. Vous revenez, il s'est passé quelque chose, en plus de votre métier.
Les retrouvailles avec Manon aussi?
Ah oui, bah alors là, vous allez voir dans le film, elle est resplendissante, elle rayonne, elle s'est investie à fond, avec le sourire en plus, du matin au soir, qu'on l'a réveillée à 4h du matin pour aller tourner, ou qu'elle y tournait dans les collines, les montagnes, les cascades, elle a été extraordinaire, et c'est une partenaire de jeu formidable, et puis on rigole bien tous, c'est vraiment bien.
C'est son printemps en plus, hein, Manon, puisqu'on la retrouvera aussi dans Les Ombres Rouges sur C8. Franck, évidemment, Élise Tilroy qui a fait son arrivée en début de saison dernière, c'est bien acclimaté évidemment. Et pour cette nouvelle saison, est toujours aussi pet sec, ça va, est toujours aussi franche du collier.
Ouais, le personnage d'Ariel qui joue, oui, c'est franche, et puis elle est dans la séduction aussi pas mal. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de malentendu, si parfois elle nous dit les choses pour une vraie information et mettre du mystère ou mettre un peu de séduction, et ça c'est drôle.
C'est un peu chien-chat. Hein,
c'est un peu déroutant et c'est bien.
Bon, des amours, il va y en avoir un petit peu aussi, des romances pendant cette saison.
Ouais, et des emmerdes aussi.
Des amours, des emmerdes, voilà, c'est un peu le quotidien.
Il y a aussi cette année, on a traité aussi le côté des enfants, Elliot, le fils de Lucas et Auriol, il fait une découverte d'un lien de parenté entre Bernier et un garçon qui va aussi bouleverser la vie de Bernier.
Ça, on le découvrira puisqu'on accueillera aussi d'autres, évidemment, acteurs de la série dans les semaines qui viennent. Quel a été ton plus beau souvenir de tournage? Alors évidemment, j'ai un peu une idée avec la Nouvelle-Calédonie, mais est-ce qu'il y a d'autres souvenirs de tournage particuliers sur cette saison-là qu'on va voir?
Franchement, c'est l'échange avec la Nouvelle-Calédonie, avec les Kanaks dans la tribu et toute l'équipe en larmes par le discours d'un Indien, enfin d'un Kanak de là-bas. Et ça nous a donné une petite leçon. On est restés unis depuis tous dans nos têtes avec eux et je crois que c'est le beau souvenir. Je peux pas en inventer un autre.
Bon, eh bien, écoute, en tout cas, on te souhaite plein de belles choses, hein, une belle saison, hein. Je suis sûr que les plus de 5 millions de fidèles seront au rendez-vous, j'en suis sûr. On te le souhaite, en tout cas. Et jeudi, c'est le grand retour de Section de Recherche en Nouvelle-Calédonie. Je peux vous dire que ça va être magnifique. Merci à toi.
Merci à toi, là.
Et on va écouter tout de suite la bande-annonce.
On a retrouvé le portable dans le conteneur avec le corps.
Je m'appelle Sarah. Sarah Casanova, si vous entendez ce message.
Le cargo qui a chargé le véhicule est arrivé directement à Nouméa.
Ces hommes enquêtent sur une affaire grave. On sait que vous la connaissez.
Sarah, la gendarmerie s'est débarquée ici. Si t'es vivante, rappelle-moi.
On a l'identité du corps retrouvé dans le conteneur.
Un certain Romain Barthélis.
Romain était mon amour, je l'aimais.
Je l'ai tué.
J'ai entendu un coup de feu.
J'ai vu une voiture, elle était dedans.
Qui ça, elle?
Jack Barret, oui, casse-toi!
C'est bien Sarah qui a touché l'arme en dernier.
T'as toujours des sentiments pour elle, c'est ça?
Il faut que les gens disparaissent pour s'apercevoir qu'on les aime encore.
Section de Recherche, nouvelle saison inédite, bientôt sur TF1.
Allez, on va parler de Demain nous appartient. Aujourd'hui, dans Chute, on écoute la télé, on reçoit régulièrement les comédiens de la série. Eh bien, on va recevoir le clan Bédiard. Et oui, aujourd'hui, dans Chute, on écoute la télé, on n'est pas peu fiers d'avoir Kenza Saïb Couton pour la première fois qu'avec nous. Bonjour, Kenza.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Liam Batty aussi, ton amoureux dans la série, le beau Rémi. Ça va, Liam?
Ça va super. Et vous, comment ça se passe?
Ça se passe super bien. Merci d'être là. Et puis celle qui nous a fait beaucoup pleurer, qui nous a fait verser beaucoup de larmes et qu'on adore, celle de Figueredo. C'est la petite Nour, évidemment, qu'on adore dans Demain nous appartient. Ça va, Sahel?
Oui, bah très bien, très bien.
Merci. Voilà, je l'ai intimidée là, ça y est là. Je vois bien, je vois bien. Bon, en tout cas, c'est une aventure incroyable. Demain nous appartient. C'est les audiences qui sont sans arrêt en flèche. Comment vous vivez tout ça déjà tous les trois, cette notoriété soudaine, ce changement maintenant dans la rue quand vous sortez faire vos courses, vous pouvez plus sortir sans faire un selfie, une dédicace. Ça change beaucoup de choses une série quotidienne.
Mais moi, je laisse Kenza faire mes courses.
Ça, c'est pas faux d'ailleurs. C'est vrai que plusieurs fois, quand il m'envoie au charbon, non, c'est une aventure incroyable. On est extrêmement chanceux d'être encore là un an et demi après, parce que le public est hyper fidèle et au rendez-vous tout le temps. Les gens sont bienveillants, donc en soi c'est hyper agréable. Mais après c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant. Enfin moi j'ai toujours un peu du mal à m'y faire.
Liam, pour toi?
Je pense que c'est une folie pour tout le monde, parce que rien n'était prévu. On devait rester 2 mois, 3 mois à l'antenne, ça devait être un passage comme ça, et on se retrouve tous les jours chez les gens. On tourne tous les jours, donc on est enfermé, donc on voit pas ce qui se passe à l'extérieur, on ressent pas le phénomène qui a pris cette ampleur-là. Donc ouais, ça nous étonne, mais bon, c'est toujours un plaisir, parce que les gens sont bienveillants. Nous, ça se passe toujours bien, on travaille.
On vous cherche dans 7 quand même.
Ah, les gens nous servent.
Vous vous en rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances à 7 pour venir vous voir.
Je construis des cabanes que je cache à des adresses que je ne vous donnerai pas, monsieur. Oui, effectivement, ouais, dans 7 maintenant, les gens nous cherchent, surtout en vacances, dans les vacances. Mais c'est une folie, mais une folie douce, qu'on accepte parce que c'est une super expérience qu'on vit. Et voilà.
Beau cadeau, une série comme ça.
C'est magnifique. On nous donne que du bonheur et on essaie de donner que du bonheur ensuite.
Sahel, tu vis comment toi?
Moi, ça fait beaucoup de changements, ouais. Parce que j'ai fait que du théâtre avant. En amateur, et donc c'est vraiment mon premier projet professionnel. Mais c'est super parce que c'est vrai que tous les gens qu'on rencontre sont vraiment adorables. Mais ça fait bizarre quand je me balade avec ma famille dans 7, par exemple, puisque j'ai vécu 9 ans à 7, ça peut être surprenant. Mes parents ont aussi du mal à s'y faire.
Donc t'étais des jeunes filles du Sud, toi?
Ouais,
je suis un peu comme Joachim.
Ouais, je connaissais Joachim avant qu'il tombe dans la série, c'est drôle, c'était du même groupe, nos parents sont amis, donc c'est marrant, ouais.
Bon, c'est une belle aventure en tout cas pour toi. Vos personnages ont vécu énormément de choses ces derniers mois, puis Grégoire qui est absolument extraordinaire comme partenaire, il nous procure des émotions, enfin même tous les deux, dès que vous passez à l'écran, vous nous envoyez des émotions qui sont ultra fortes, hein.
Tant mieux, c'est le but. Tant mieux si ça marche, quoi. Mais c'était pas facile au début, mais on a réussi, je pense, chacun à prendre nos marques et c'est de plus en plus fluide pour lui. C'est cool, quoi.
Et la grosse intrigue autour d'Halloween aussi a dû quand même vous mettre un peu le pied à l'étrier et vous faire enchaîner beaucoup, beaucoup, beaucoup de séquences.
Ouais, mais c'est ça qui est super, c'est qu'on a quand même, commencer à se connaître du coup vraiment grâce à cette intrigue. Non, c'était une super intrigue, c'était vraiment une super équipe en plus, un super lieu de tournage, que du bonheur vraiment.
Mais en tout cas, le couple est sur les rails pour l'instant. Kenza, alors c'est pareil, hein, le clan Bédiard a vécu beaucoup beaucoup de malheurs, on va dire, ces derniers mois entre l'accident de bus, hein, début novembre, et puis maintenant un papa en prison, on va dire que franchement, le clan n'est pas épargné. Hein.
Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas épargné les Bédiards. Et puis ça commence en fait dès le début de la série. Hein. Il y a un an et demi, on
perd. Commencé par vous, oui.
C'est ça. On perd déjà un membre de la famille, etc. Donc non, que d'aventure. Alors c'est vrai qu'on se marre pas beaucoup en ce moment chez nous, mais c'est.
Il y a des petites soupapes quand même, parce que vous avez une maman extraordinaire.
Oui, c'est sûr. Et puis ils nous ont quand même fait plaisir et ils nous ont quand même écrit quelques petites scènes de comédie assez sympas à défendre. Mais après, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un cadeau de défendre ces scènes-là. C'est vraiment un plaisir de jouer les scènes d'émotion. Enfin voilà, je pense que vraiment on s'éclate et on a eu la chance, je pense que je peux le dire aujourd'hui, d'avoir une seconde arche qui nous a été confiée. Donc les Bédiards reviennent bientôt, voilà, autour d'une nouvelle intrigue. Donc non, c'est chouette et on est hyper heureux de ça.
On va suivre ça de près. Liam, toi t'es arrivé en cours pour le coup, t'étais pas là dès le début. T'étais prévu rester aussi longtemps ou vraiment c'est moi c'est l'impression que ça donne en tout cas que t'étais pas prévu rester très longtemps et que les gens sont attachés très vite à ton personnage et du coup t'es resté.
Ils ont écrit ouais, je devais rester un mois. Je suis arrivé 2 mois après le début. Ouais. Je devais rester un mois et ils ont écrit et voilà de fil en aiguille ça s'est fait et c'est surtout que j'ai une super belle petite amie donc voilà les Bédiards qui m'ont accueilli et c'est une super belle image en plus c'était Bédiards, Levalski. Enfin, c'est la France d'aujourd'hui, donc déjà j'étais étonné et surtout je suis plus qu'heureux de partager avec des acteurs extraordinaires comme eux ces archetas, ouais. Donc non, c'est un plaisir. C'était pas prévu et quelle belle surprise.
Est-ce que ça vous laisse du temps pour faire d'autres projets? Est-ce que vous avez eu des propositions aussi? Parce que ça doit ouvrir des portes d'être exposé comme ça tous les soirs à 19h20 sur TF1. Kenza?
Oui, il y a eu des propositions à côté, des choses qui n'ont pas forcément abouti, d'autres pour lesquelles j'attendais réponse. Après, c'est sûr qu'on a quand même un engagement moral vis-à-vis de la série qui fait qu'on ne peut pas... Alors, à moins d'avoir un truc vraiment prévu à côté...
Il faut prévoir une petite disponibilité, comme on dit.
C'est que ce sont des choses qui s'organisent en amont, parce que voilà, les textes sont écrits vraiment au fur et à mesure. Et en fait, même si on a un mois et demi d'avance sur les spectateurs, au final, on reçoit les textes au compte-gouttes. Donc nous, on découvre aussi petit à petit ce qui se passe et on n'a pas tellement d'infos sur l'évolution de nos personnages. Donc c'est du suspense de tout instant. Donc des choses peut-être à venir, mais rien dont je puisse parler aujourd'hui.
Parlera. Tu seras bienvenue. Liam.
Oui, alors moi je viens de terminer un moyen-métrage de Loïc Jacquet qui est extraordinaire, de science-fiction. Donc oui, j'ai eu des propositions et une petite surprise, je serai pas un fermier mais je serai sur Nina.
Bien, la saison 5.
Voilà, on termine de tourner en mars et donc j'aurai un rôle sur Nina dans la saison 5.
Bien, et là tu joueras quoi comme rôle?
Un danseur contemporain.
Et ben voilà, vous le retrouverez donc Liam dans Nina également et Sahel.
Alors
toi, si tu me dis que t'as pas eu de proposition, est-ce que tu nous as sorti comme scène depuis septembre, c'est pas possible.
Bah non, je n'ai encore eu aucune proposition, mais j'ai mon agent depuis très peu de temps, donc voilà. Elle m'a proposé sur de nombreux castings, j'ai pas encore de réponse, donc on verra bien.
Puis là, je crois que franchement, tu es bien parti. Dans Demain nous appartient, on se fait pas de soucis pour toi. Merci en tout cas à tous les trois d'être passés nous voir. N'oubliez pas le rendez-vous, c'est 19h20 sur TF1 du lundi au vendredi. Et on peut même vous dire, il y a un prime en préparation pour bientôt. Voilà, on vous en dira plus, évidemment, très très vite. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Maman, chérie, c'est moi.
Oui.
Je suis contente de te voir.
Moi aussi. Ça va.
Je voulais aller à ton cabinet, mais je me suis dit que c'était dangereux pour toi. Alors j'ai attendu que tu sortais. Je t'ai suivi jusqu'ici.
T'as bien fait.
Aller voir la police,
non, hein. Non, t'inquiète pas, maman m'a expliqué tout ce qui s'est passé hier soir.
Il faut les croire. Ils vous tueront tous les trois. Ils n'hésiteront pas.
Je te crois.
Allez, on termine l'émission avec Vérino dans un tout petit instant. Surtout, ne bougez pas, on revient dans 3 minutes. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on va parler humour, hein, évidemment, puisque le festival Escale d'humour à Royan vient de se terminer il y a quelques jours. Et il était une des têtes d'affiche, hein, de ce festival il y a quelques années. C'est Vérino qui est de retour dans Chut, on écoute la télé. Bonjour Vérino.
Bonjour, comment ça va?
Eh bien, ça va très bien. Je suis très heureux de te retrouver dans cette émission. Nouveau spectacle, nouvelle tournée, plein de projets.
Non, pas du tout. Ça, c'est que du faux pour être dans ton émission. Mais sinon, j'ai pas de spectacle, j'ai pas de tournée, rien du tout. C'est vraiment.
T'as fait ça que pour venir.
Pour venir, ça fait longtemps. Vous m'avez manqué. Je reviens.
Écoute, nous aussi, tu nous as manqué. Et un spectacle toujours aussi drôle à guichet fermé. On l'a vu encore, t'es passé en Charente-Maritime, à Salbeau Séjour de Châtelaillon. Début février, c'était blindé. Aujourd'hui, une raison du succès et un amour du public. Comment t'expliques ça, cette fidélité?
En vrai, je vais parler premier degré, mais je pense que c'est YouTube qui a changé ma vie là-dessus. C'est réussir à faire ces vidéos-là qui incluent le public et qui font que quand tu regardes mon travail, tu comprends tout de suite que je suis sur scène, tu comprends tout de suite la dynamique dans laquelle je suis, tu comprends le délire dans lequel est le public. En vrai, je pense qu'on a aujourd'hui besoin de s'identifier à des trucs un peu positifs. Écrire chaque semaine, prendre le risque de faire des trucs nuls, c'est positif mine de rien. Et donc on se retrouve avec toute cette armée. Moi j'ai vraiment cette sensation là, hein. On est quasiment 400 000 maintenant sur YouTube. On le voit, toutes les salles de la tournée sont pleines. Et elles sont pleines, mais elles sont pleines de gens qui m'aiment déjà. C'est-à-dire j'ai vraiment l'impression d'être un mec connu, pas connu, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si t'es très connu, c'est normal, t'es un Franck Dubosc et tout le monde vient et c'est ce que tu fais. Là, moi, je suis pas identifié à un stade international, on parle pas de moi comme une star. En revanche, les salles que je fais sont pleines de gens qui me connaissent. Donc c'est un plaisir à jouer parce que les gens sont directement dans mon délire, ils l'acceptent, ils le comprennent. Et puis moi, je m'exprime de plus en plus, je suis de plus en plus libre, je suis de moins en moins terrifié aussi à l'idée de présenter mon travail parce que je sais que les gens sont aussi bienveillants que je le suis. Et du coup, bah, ça donne un truc, c'est trop bien, quoi.
C'est drôle, c'est qu'il y a 5 ans, il est vrai que tu n'étais pas hyper médiatisé, tu remplissais déjà les salles, donc c'est vrai qu'Internet aujourd'hui a une puissance incroyable.
Bah ouais, c'est ça, il y a 5 ans, on était aux prémices de ce que c'était avant d'avoir cette idée-là de vidéo, mais on ne demande qu'à en rire déjà, hein, qui nous avait aidé un petit peu tous, même si je ne faisais pas partie des gens qui avaient pris une dimension extraordinaire, mais il y a Montreux qui me rendait visible, et puis ouais, les prémices de YouTube où on a rempli l'Olympia grâce à mes premières vidéos YouTube.
Ça, c'était une sacrée aventure. L'Olympia, ton premier Olympia.
Mais je crois que c'est ça le vrai truc, c'est qu'en vérité, ce métier c'est une aventure, et soit tu le traites comme quelque chose de spectaculaire où les gens viennent voir un spectacle, soit tu le traites comme je le traite, c'est-à-dire on y va quoi. C'est une aventure, on essaye, on fait l'Olympia, on va voir ce que ça donne. Derrière, il y a eu le Grand Rex, il y a eu Bobino, il y a eu le Théâtre Antoine, il y a toutes ces tournées.
Quand t'as vu ton nom en lettres rouges,
et c'est kiffant.
Un petit quelque chose.
C'est kiffant, et à la fois, tu le fais l'Olympia, le lendemain tu te réveilles et tu te dis, et maintenant, ma vraie vie va démarrer. L'objectif de, je veux pas dire de tout le monde, parce que voilà, mais mon objectif à moi, quand j'ai démarré ce métier, c'était un jour, je ferai l'Olympia. J'ai jamais mis les pieds à l'Olympia avant d'y jouer moi-même.
Juste avant d'écouter un petit extrait de toi sur scène, on va pouvoir te retrouver en spectacle, hein, dans notre belle région de la Nouvelle-Aquitaine. Alors, quelques dates, hein. Au passage, on te retrouvera le 19 mars. Ça sera à Bordeaux. Le 20, tu seras à Montauban. Alors, c'est pas exactement Nouvelle-Aquitaine, Montauban, mais c'est pas loin, c'est à la frontière. Tu seras à Tonnaz, dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen, le 21 mars. Tu seras à Aiguevin également, ça c'est en Haute-Garonne le 22 mars, et on te retrouvera également aux frontières, hein, de cette Nouvelle-Aquitaine, ça sera en Touraine, à Mont, le 4 mai, des dates partout, quasiment à guichet fermé jusqu'à cet été. On sait pas où ça va s'arrêter, mais on va parler de ce nouveau spectacle, en tout cas, que vous pourrez découvrir sur scène, juste après ce petit extrait.
Cette semaine, je suis allé aux urgences, mais tout va bien, tout va bien. Dieu merci, c'est mon fils qui a failli mourir, donc tout va bien. C'est le petit là, celui qui a 6 semaines, il a 39,1 de fièvre. C'est très inquiétant. 39,1 de fièvre, c'est pas comme les adultes. 39,1, c'est vraiment grave. C'est comme les chiens, faut multiplier par 7. Donc c'est vraiment. Ça faisait 280 degrés, mon pote. On l'a pris, on le portait avec des palettes de bois comme ça. On est arrivé à l'hôpital, ça a mis en route les alarmes incendies. Enfin, c'était vraiment. Vous êtes déjà allé aux urgences pour les enfants? C'est génial! Mais c'est Walking Dead, les gars. T'as que des parents dans un état. Ces mecs ont pas dormi depuis 72 heures, ils ont pas pris de douche, ils ont les yeux dans le vide, ils ont juste le bras qui bouge. Au bout du bras, il y a un gamin. Ah,
c'est ça. Bon, tu vas pas nous le faire en live, mais voilà, c'est ça. Verino sur scène, c'est ça, voilà. Alors, ce nouveau spectacle, qu'est-ce qui a changé depuis le dernier, nous, qu'on a vu il y a 4-5 ans?
Bah c'est ce que je te disais hors micro, et je pense qu'il faut avoir la sincérité de le dire, c'est-à-dire qu'il a juste évolué. Et même j'essaye aujourd'hui de travailler dans cette dynamique-là, c'est une évolution de ce qui il y a quelques mois était mon spectacle. Je le bouge sans arrêt, je le fais évoluer sans arrêt en fonction de ce que je suis. Là, ma femme vient d'accoucher de mon troisième enfant, je peux pas monter sur scène en parlant que des deux premiers, le troisième est là. Donc j'ai besoin d'être, et je pense que c'est l'essence du stand-up, d'être en adéquation totale avec ce que je suis. C'est ça, monter sur scène en stand-up, parce qu'on n'est pas des comédiens au sens sens, on n'est pas là pour jouer quelqu'un, on est là pour jouer nous. Donc être nous au maximum. Pour être nous au maximum, il faut que le texte corresponde, il faut qu'on soit juste avec ce qu'on vit, il faut qu'on soit juste avec ce qu'on ressent, et il faut qu'on puisse être sincère avec les gens. Donc ma sincérité, elle évolue, quoi. Il y a des trucs dans le monde qui se passent dont j'ai envie de parler. Il y a une période où je parlais du terrorisme, et je pense que peut-être que tu avais vu ce passage-là, qui aujourd'hui n'est plus dans le spectacle parce que le monde a évolué et que j'ai d'autres combats. Donc c'est, il faut suivre ses envies pour être sincère. Le truc primordial pour moi, c'est monter sur scène et s'offrir totalement, s'ouvrir complètement, que les gens comprennent qui tu es, parce que on a besoin de ça en vrai, hein. C'est ce qu'on a de moins en moins. On est tous dans une espèce de représentation avec les réseaux sociaux, les trucs, tout le monde a une image. Il faut nous qu'on réussisse à exister sans cette carapace là pour pouvoir dire aux gens d'une que c'est possible, et puis de deux que c'est pas mal intéressant en vrai.
C'est ce qui rend quasiment chaque spectacle unique, parce ouais. que à la moindre chose qui peut te toucher, te bouleverser ou tout simplement t'inspirer, ça peut être ajouté quasiment au spectacle instantanément.
Complètement, mais comme dans la vraie vie en fait. Moi, je considère que le spectacle doit pas être spectaculaire. J'ai pas envie qu'on vienne voir une œuvre, j'ai envie qu'on vienne voir un mec. Et donc quand on vient voir un mec, comme quand on parle dans la vie, c'est-à-dire qu'il va se passer n'importe quoi, on improvise dessus, on passe notre temps à improviser. Souvent les gens sortent de mon spectacle en disant putain, t'es bon en impro, mais je ne considère pas du tout être bon en impro, je considère être bon en blabla. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on est en impro en permanence. Là, toi et moi, on est en impro, on
c'est
se démerde.
On n'a rien de préparé, on se lance comme ça, on vend du rêve. Hein.
Exactement. Et donc, il faut qu'on ait ça sur scène. Quitte à se planter, quitte à échouer, quitte à réussir, en fait. Prenons le risque de rater pour prendre le risque de réussir. Donc, effectivement, encore une fois, la sincérité, comme dans la vraie vie, quoi. Des fois, t'as l'air d'un con. Bon, si t'as l'air d'un con sur scène, t'as l'air d'un con sur scène. Au pire, c'est rigolo, hein.
T'as un rôle idéal, mine de rien, que tu aimerais jouer? Si on avait des producteurs ou des réalisateurs qui nous écouteraient, t'aurais plutôt envie de jouer un rôle de méchant, de gentil? De romantique.
C'est dur. Je crois que j'aurais envie de jouer un rôle de voix off. C'est terrible. Mais j'aurais envie d'expliquer ce pourquoi le mec est dans cet état-là. Et peut-être même que ça finira par être pas loin de la forme que je présente sur scène. C'est-à-dire, imagine quand tu te retrouves dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui m'excite. C'est me mettre à la place des gens. C'est vraiment la sensation qui m'amuse. Et j'arrive pas à la donner autrement au public qu'en la paraphrasant, qu'en l'expliquant, qu'en la traduisant. Dans un autre type de sensation. Et au cinéma, j'ai pas encore réussi à trouver le moyen de faire ça.
Eh bien, en tout cas, des bonnes sensations, tu nous en donnes sur scène et on pourra le voir. Eh bien, je rappelle les dates proches de notre région. Le 19, ce sera Bordeaux, le 20 à Montauban et le 21 à Tonnins. Ça sera dans le Lot et Garonne près d'Agen qu'on pourra te retrouver évidemment pour ton spectacle à ne pas manquer. Oui, on dit près d'Agen parce que c'est le Lot et Garonne, Tonnins, une très belle salle.
La tournée, c'est comme ça, c'est la tournée des villes presque, je l'ai appelé. C'est que tout est presque. J'ai joué à Gorges, c'était presque Nantes.
Châtelier-Lyon, c'était presque La Rochelle.
Presque La Rochelle. J'ai que des tournées comme ça qui sont presque. Donc j'ai fait ça. Moi, ma tournée, c'est ça. Que la tournée des villes presque. C'est le thème.
Bon, en tout cas, on te souhaite plein de bonheur pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux?
Oh, la même chose que maintenant, hein. C'est-à-dire qu'on continue à être joyeux, quoi. Et je vous souhaite exactement la même chose. Continuer à être joyeux.
Eh bien, écoute, on se suit. On continue évidemment la route ensemble, Virino. Et tu sais, la porte est ouverte dès que t'as un projet ou que tu veux venir dans l'émission. À bientôt.
Merci de me l'avoir ouverte, cette porte-là. Et puis à tout bientôt et bonne route à l'émission, comme d'hab. Hein.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Eh bien, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous aurons le plaisir de pas avoir un coup de cœur ciné, mais deux coups de cœur ciné, puisqu'on recevra l'équipe du film Mon Bébé avec Lisa Azuelos, Thaïs Alessandrin et Sandrine Kiberlin qui seront nos invités. On parlera également du film Rebelle, puisque Alan Mauduit, le réalisateur, sera avec nous et sera accompagné de deux de ses comédiennes, Audrey Lamy et Cécile de France, qui seront nos invités exclusives. Nous parlerons de la série Les Ombres Rouges avec Nadia Farès. La série débarque justement la semaine prochaine sur C8. Mathieu Madignan sera avec nous pour nous parler des Bracelets Rouges qui fait son grand retour sur TF1. Nicolas Gobbe viendra nous parler de son téléfilm Sous la peau. Et puis Thierry Neuvik et toute l'équipe du téléfilm Illégitime qui a été primé à Luchon sera également avec nous. Donc vous l'avez compris, ça sera un programme très chargé une nouvelle fois dans Chute on écoute la télé.
Chute on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute on écoute la télé.
J'aurai donc le plaisir de vous retrouver tout au long de la semaine, tous les jours à 8h30 et 13h30 sur Mélodie FM. D'ici là, je vous donne rendez-vous évidemment lundi prochain à 19h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée à tous à l'écoute de nos programmes.
Chute on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le sud-ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Gironde sur lucien-georgelin.com. Chute on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier régional élu saveur de l'année 2018. Vos points de vente en Gironde sur l'angélis.com.